Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. Pour une fois, j'aimerais commencer par un mot. Éclat. Un mot à la fois simple mais riche de nombreuses références. Éclat de rire, bien sûr. Éclat de lumière. Coup d'éclat. Mais aussi éclat de violence. Ce sont toutes ces nuances qui composent le récit de notre invité aujourd'hui, un autoportrait tout en fragments qui pourtant avec le recul dessine le contour d'une femme tout en liberté, que ce soit dans son métier de journaliste, dans ses amours, sa passion pour le Proche-Orient ou son infinie curiosité et appétit pour la vie. Elle se dévoile avec authenticité dans un livre intime qui se lit aussi comme un roman et qui donc vient de paraître sous le titre Éclat au pluriel, aux éditions Mercure de France, dans la collection Traits et Portraits. Bonjour Alexandra Schwarzbro.
Bonjour.
On vous connaît aujourd'hui comme directrice adjointe de la rédaction du quotidien Libération, comme essayiste, comme romancière et auteur entre autres d'une trilogie qui se déroule en Israël. Et vous voilà aujourd'hui dans un exercice un peu différent. Racontez le chemin qui vous a mené à ce que vous êtes aujourd'hui. Comment est-ce que vous définiriez ce chemin maintenant que vous l'avez retracé un peu par l'écriture ?
Je le retracerai en disant qu'il a été à la fois sinueux, avec des tas de petits écarts par rapport à ce que je pensais être mon chemin. Et en même temps, j'y vois une cohérence, parce que finalement, l'écriture, j'ai toujours aimé écrire, puisque j'ai fait des études de traductrice. Et la traduction, c'est de l'écriture. Évidemment, c'est d'abord l'écriture de la langue française, puisque je traduisais du russe et de l'anglais. Et donc, ça, c'est cohérent finalement, et après j'ai fait un petit écart parce que d'abord le russe à l'époque on était encore en URSS, ça paraît très loin, mais et donc il y avait très peu de boulot avec le russe, donc j'ai commencé à travailler en anglais, à traduire des publicités, puis des articles, et puis à force de traduire des articles je suis arrivée, j'ai eu envie de proposer des articles, donc ça s'est fait comme ça. Donc vous voyez, à la fois c'est cohérent, à la fois c'est par des chemins détournés, mais je crois que l'amour de l'écriture et l'envie d'écrire a toujours été là. Et surtout l'envie de découvrir le monde. Je crois que ça, depuis toute petite, j'ai envie de découvrir le monde, de voyager, mais de voyager pas avec un guide de tourisme à la main, de voyager utile, si je puis dire.
Alors, ce n'est pas un récit chronologique, mais plutôt thématique qui s'ancre dans quelques-uns des moments forts de votre existence. Si vous permettez, moi aussi, je vais choisir au hasard des sujets que vous évoquez ici. Alors, pour commencer, vous venez de parler d'écriture, Alexandra Schwarzbro, mais d'abord, il y a la lecture. Et surprise, à 12 ans, à Grenoble, dans les années 70, vous lisez les romans populaires de SAS, de Gérard de Villiers. SAS, c'est le nom de ce personnage qui est espion. Comment est-ce que vous êtes retrouvée avec ces livres entre les mains ?
C'est tout simplement mon père qui lisait SAS, qui lisait des revues aussi comme Penthouse, lui, et tout ça. Donc moi, quand j'étais à la fois petite et pré-ado, c'est vrai que j'allais fouiller dans ces tas de livres et de revues, j'allais lire ça. Et donc c'est vrai que j'ai un peu appris à lire dans SAS, ce qui en effet est quand même particulier, parce que c'était des romans qui mêlaient quand même pas mal de... C'est pire que de l'érotisme, c'était presque de la pornographie. C'était des romans aussi qui utilisaient très racistes, très homophobes, très, enfin, vraiment sexistes. Enfin, les femmes étaient vraiment là uniquement pour servir d'appât. Donc voilà, je pense qu'apprendre à lire là-dedans, ça, tout de suite, ça vous donne une vision du monde particulière. Et je pense que ce que j'en ai gardé, heureusement, j'ai pris plutôt le contre-pied de tout ce que ces romans véhiculaient, puisque je me considère de gauche et ouverte à l'autre dans sa différence, dans toutes ses différences. Mais j'en ai gardé quand même, c'est vrai, cette espèce de goût pour la découverte du monde, pour les milieux un peu de militaires, stratégiques, diplomatiques. Tout ça, ça m'a toujours un peu fascinée. J'ai gardé cette fascination-là. Et puis aussi pour les milieux militaires, puisque c'est là-dedans que j'ai démarré plus tard, une fois étudiante, une fois diplômée.
Effectivement. Donc, SAS du côté de votre père, et votre mère, elle lisait quoi ?
Ma mère lisait plutôt des romans, mais c'était plutôt de la littérature blanche, des romans. Donc, et puis surtout, ma mère était journaliste, puisqu'elle est devenue au fil du temps Madame Express pour l'Express Rhône-Alpes. Elle était correspondante de l'Express dans la région Rhône-Alpes, puisqu'on habitait Grenoble, on vivait à Grenoble. Et voilà, donc moi j'ai grandi avec en effet les piles de SAS d'un côté et ma mère qui écrivait ses articles sur la table de la cuisine pendant que les petits plats mijotaient. Et ça, c'est vrai que ça nourrit aussi.
Et ensuite, vous faites un grand saut, vous allez lire Henry Miller, c'est évidemment une autre qualité. Et puis, vous continuez en effet votre chemin d'étudiante, de jeune fille. Et bien avant de devenir journaliste, vous venez déjà de l'évoquer, Alexandra Schwarzbrot, vous étiez passionnée d'armement et de défense. Alors, d'où ça venait, ça ?
Alors, quand j'étais étudiante, pour arrondir mes fins de mois, parce que mes parents m'envoyaient un chèque tous les mois, mais qui n'était pas très élevé, et donc, un jour, j'ai décidé de pousser la porte d'une boîte d'intérim pour dire que je cherchais un petit boulot. Je leur ai dit que je parlais différentes langues étrangères. Et tout de suite, ils m'ont dit, bon, bah, écoutez, est-ce que vous êtes libre pour aller en septembre au salon de l'aéronautique de Farnborough, en Angleterre ? Et donc, ce salon-là, c'est, vous savez, ça alterne avec le salon du Bourget à Paris. Et c'est le grand rendez-vous des constructeurs aéronautiques et des vendeurs d'armes. Et là, je suis entrée dans un monde très particulier parce que donc j'étais hôtesse sur un stand qui vendait des armes, qui vendait des lance-roquettes multiples, des chars. Donc moi, j'avais, je devais avoir 19 ans à l'époque. Je me rendais pas tellement compte de ce que je servais à vendre, si l'on peut dire. Et puis surtout, à l'époque, on était très très loin de l'époque MeToo. Hein, et les hôtesses sur les salons, c'était vraiment, comme je l'écris, des pièces
Exactement.
De bœuf. Hein, des pièces de bœuf sur un étal de boucher. Et donc, c'est vrai que les hommes étaient omniprésents, il n'y avait que des hommes. Mais finalement, j'ai réussi, ça m'a intéressée, les sujets m'ont intéressée, les gens m'ont intéressée. Et surtout ce côté très international, ce côté très diplomatique. Il y avait des militaires de tous les pays du monde qui défilaient sur ces salons. J'ai fini par m'y intéresser. Et une fois diplômée de mon école de traduction, c'est forcément à ces portes-là que j'ai frappé. Parce que je connaissais beaucoup de gens, je m'étais fait un réseau finalement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à traduire des publicités pour matériel militaire, ce qui est quand même maintenant avec le recul, ce qui paraît fou. Et puis, comme ça se passait bien, on m'a donné des articles à traduire. Et puis, à force de traduire des articles, je me suis dit, finalement, moi, je suis capable aussi d'en écrire parce que je connais des gens que je peux interroger. Mmh. Et puis, les gens à qui me donnaient des articles à traduire me filaient des infos. Donc, de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis devenue journaliste. Et là, je suis tombée dans le bain du journalisme et j'en suis plus jamais ressortie parce que j'ai adoré et j'adore toujours passionnément ce métier. Parce que, à la fois, vous êtes utile, puisque vous informez, vous écrivez, l'écriture est importante, vous voyagez, parce qu'il faut quand même découvrir le monde pour raconter le monde à vos lecteurs. Donc là, pour moi, il y avait toutes les croix dans les cases, si je puis dire.
Mais toujours donc la presse écrite, je mets de côté vos interventions à la radio et sur les plateaux de télévision en tant qu'experte, toujours la presse écrite.
Ah oui, j'adore écrire, et surtout le quotidien, puisque j'ai démarré aux Échos, quotidien économique, et puis ensuite donc Libération. J'aime l'adrénaline du quotidien. J'aime quand à 17h il faut tout changer et réécrire un édito ou remonter des pages parce qu'il y a une actu forte. J'aime cette adrénaline-là et je ne suis pas sûre que j'aurais pu bosser dans un hebdo ou un mensuel. Moi j'aime quand ça tangue, quand il faut prendre des décisions rapides et écrire vite. J'aime bien, j'adore cet exercice-là de vous mettez devant, vous avez un édito à écrire sur un sujet que vous ne connaissez pas forcément, parce qu'on ne peut pas maîtriser tous les sujets, et vous savez que vous avez 2000 signes à écrire en une demi-heure. Et là, vous avez un petit pincement, vous renseignez, vous êtes passé des coups de téléphone, vous allez voir le journaliste compétent, vous dites, alors explique-moi le sujet, que je comprenne bien les enjeux, etc. Et ça, c'est formidable, c'est un exercice formidable.
Alors, on va continuer de parler d'écriture dans la deuxième partie de cette émission, mais je vous propose, Alexandra Schwarzbrot, d'abord une pause musicale. Alors, il y a beaucoup de références ici dans votre texte éclat. Francis Cabrel, Luz Casal, Charles Aznavour, Ferruz, Julio Iglesias, Leonard Cohen, Dolly Parton et aussi Talila, oui. Cette chanteuse juive franco-polonaise. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écoute maintenant ?
Oh, mais Talila, je ne m'en lasse pas. Talila, je ne m'en lasse pas. Yiddish et Mama, ça, c'est vraiment, chaque fois, j'ai envie de pleurer quand j'entends cette chanson. Bizarrement, ça me fait penser à ma mère, qui n'avait absolument rien d'une mère juive, qui était, avec qui j'avais des relations pas si proches, mais quand même, que je pense qu'on s'estimait beaucoup, toutes les deux. Et voilà, chaque fois, elle me fait penser à ma mère, cette chanson.
Alors, on l'écoute.
Es geht nicht besser in der Welt. Heidische Mama, oi, war wie bitter, wenn sie fehlt. Oi, wie lechtig und schein ist ein Eis, wenn die Mama ist. Wie traurig finster Welt, wenn sie geht, wegzugehen. In Wasser, in Feuer, wohl sie gelaufen vor ihr Kind. Die Staaten sie teilen, das wohl gewesen die Gräste sind. Oh, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat. Als er scheine Matune, Geschenk von Gott. Noch ein Altitschke, Yiddische Mama, Mama, meine.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui d'Alexandra Schwarzbro qui publie Éclat au pluriel, je le précise, aux éditions Mercure de France, un récit, on l'a dit, qui revient sur les moments saillants de votre existence comme femme, comme mère, épouse, journaliste et écrivaine. Et parmi les thèmes qui éclairent votre trajectoire, le goût de l'ailleurs et ses voyages marquants dans le monde, j'en cite quelques-uns. L'URSS adolescente quand vous apprenez le russe, la Nouvelle-Calédonie, jeune mariée, l'Algérie, pays d'origine de Pierre, votre époux, le Vietnam avec votre fils, l'Égypte pour un roman, les États-Unis, le Liban et Israël dans le cadre de votre métier de journaliste. Alors avant d'en arriver à vos années israéliennes comme correspondante qui marquent un avant et un après dans votre vie, qu'est-ce que vous allez chercher quand vous partez, Alexandra Schwarzbro ?
L'ailleurs, aller voir ailleurs si j'y suis, j'aime assez cette expression. Et puis aussi, c'est des connexions. C'est vrai que par exemple, l'Algérie, en rencontrant celui qui deviendrait mon mari, j'ai fait entrer l'Algérie dans ma vie, par exemple. Donc lui, il était pied noir d'Algérie, il était né là-bas, il en est parti, donc évidemment en 62, il avait 10 ans. Mais toute sa vie a été marquée par les 10 ans qu'il a passés en Algérie, dont il gardait des souvenirs quand il m'en parlait, je voyais bien, il avait les yeux qui brillaient, il se souvenait de tout, des saveurs, des fruits qu'il allait manger dans le verger, du froid, du sol sur lequel il fallait s'allonger l'été pour avoir un peu de fraîcheur quand il faisait chaud, mais aussi du tremblement de terre, de ce qui s'appelait à l'époque El Asnam, puisque lui était d'Orléansville, hein, et donc il a vécu un tremblement de terre quand il était tout petit, donc il a été bercé par le souvenir de ce tremblement de terre où il a failli mourir, puisqu'une pierre est tombée sur son berceau 2 secondes après que sa mère l'en ait retirée. Enfin bref, j'avais l'impression d'avoir connu moi-même tout ça. Et puis, je voyais bien comment son père, après il s'est fâché avec son père, qui évidemment est parti très aigri, comme beaucoup de pieds noirs d'Algérie. Et donc, toutes ces discussions politiques, familiales, tout ça, ça m'a bercée. J'ai eu l'immense chance de pouvoir y aller 2 fois avec lui. Et j'ai trouvé ce pays absolument magnifique et j'ai essayé d'y retourner il n'y a pas si longtemps, mais je n'ai pas pu parce que je suis journaliste. Et ça a été terrible parce que On avait le projet avec mon mari et sa mère, que j'adorais, d'y retourner, de l'emmener, d'emmener sa mère une dernière fois à un endroit où elle n'était pas retournée depuis 62. Et malheureusement, on m'a refusé le visa. Eux ont pu y aller. Et ils ont fait ce voyage extraordinaire. Et malheureusement, ils sont morts tous les deux. Depuis, je ne pourrai plus jamais le refaire. Et ça, pour moi, c'est un chagrin immense. Parce que je pense que ce voyage aurait été extraordinaire. Il a été extraordinaire pour eux. Donc voilà, ça, vous voyez, chaque fois, c'est relié à quelque chose.
Beyrouth aussi.
Beyrouth, voilà,
un
c'est
énorme
ce que
coup de cœur.
Beyrouth, coup de foudre absolu pour Beyrouth. Alors, c'était aussi lié à un homme qui me l'a fait découvrir, un autre homme qui m'a fait découvrir Beyrouth. Donc, j'ai associé ça à cet homme qui connaissait très bien la région et qui me l'a raconté. Et donc, j'ai découvert cette région à travers lui. Et puis, surtout à Beyrouth, voilà, j'ai trouvé cette ville tellement belle et en même temps, l'histoire tellement chargée, tellement passionnante. Et là, dans ces moments-là, à Beyrouth, dans une ville comme Beyrouth, mais comme aussi dans une ville comme Alger ou comme Jérusalem, sont des villes qui vivent, qui ont vécu, qui ont été blessées, qui ont des blessures, qui ne sont toujours pas refermées. Et là, quand vous êtes journaliste ou même romancière, vous avez une matière tellement riche que vous avez l'impression que vous n'aurez passé de toute une vie pour les raconter. Et c'est ça que j'aime dans ces lieux. C'est que j'ai envie de tout raconter. Les parcours des gens si divers, les guerres parfois qui paraissent tellement incompréhensibles, tellement parfois elles partent de rien et puis elles finissent par dévaster toute une région. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse dans ces pays-là. Et c'est là où je retrouve mes réflexes de journaliste dans l'âme. C'est qu'à un moment ou un autre, j'ai envie de raconter. Donc c'est pour ça que j'ai du mal maintenant à aller dans un pays en touriste. J'ai envie, j'ai besoin de raconter ce que je vois.
Je fais quand même une petite parenthèse quand je vous écoute, Alexandra Schwarzbrod. Donc l'armement, Alger, Beyrouth, Israël, c'est quand même des lieux qui sont très marqués du sceau de la violence. Qu'est-ce que ça dit de vous, ça ?
Mais écoutez, oui, ce qui est étrange, c'est que je ne crois pas être quelqu'un de particulièrement. Je crois que pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt calme. Mais je crois que c'est la complexité du monde qui m'intéresse. La complexité. Et la complexité, et surtout, comment la raconter. C'est ça qui est important, surtout aujourd'hui, où on voit bien qu'il y a tellement de gens qui essayent d'utiliser des faits pour les déformer, pour faire monter la haine, pour désinformer, pour... Et là, je trouve qu'il y a une vraie... On a un vrai devoir, nous, journalistes, écrivains, de raconter les faits comme on les voit. Et parfois, même à travers un roman. Un roman peut raconter beaucoup de choses. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers ma trilogie policière. De raconter le conflit israélo-palestinien à travers un héros qui aurait les deux identités, israélienne et palestinienne. Comment on fait ? Comment on traverse un conflit comme celui-ci quand on est à la fois palestinien et à la fois israélien ? Mon plus grand bonheur, c'est quand on me dit « J'ai enfin compris à travers votre roman ce que veut dire ce conflit, ce que signifie être une mère ou un père israélien ou palestinien dont l'enfant va prendre un bus ou va sur un checkpoint et ne revient pas, par exemple. » Ou ce qu'est une colonie israélienne. Je pense que quand on n'a jamais mis les pieds là-bas, on a du mal à comprendre la violence que représente une colonie israélienne en territoire palestinien. Ben, je pense qu'à travers des articles ou même un roman, on peut raconter cette violence-là. Et donc, voilà, cette complexité-là, j'aime m'y frotter et surtout, j'aime essayer de la simplifier pour la transmettre, cette simplicité au lecteur.
Donc, Jérusalem, en 2000, vous avez à peine 40 ans, vous postulez pour être correspondante du journal Libération sur place. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez eu une révélation en arrivant, c'est ça ?
Oui, j'ai tout de suite aimé ce lieu. C'est, je ne sais pas, quelque chose. Alors, c'est pas le... Vous savez, il existe le fameux syndrome de Jérusalem où on devient fou. Heureusement, je ne crois pas que ce soit ça qui me soit arrivé. Mais surtout, l'impression, comme je l'écris, que toute ma vie n'avait été vécue que pour me conduire là, dans ce lieu si beau, si complexe, justement, avec toutes ces religions imbriquées, ces langues imbriquées, pour quelqu'un qui aime tellement les langues étrangères. Mais pour moi, c'était passer du russe à l'anglais, à l'hébreu, à l'arabe, Mais voilà, c'était une ouverture extraordinaire sur le monde.
Donc effectivement, vous avez dû partir alors que vous vouliez rester. Je ne vais pas m'attarder sur cet épisode, je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre livre. Mais je m'arrête quand même une seconde sur un fait important, c'est que contrairement à ce que votre nom de famille pourrait laisser entendre, vous n'êtes pas juive, même si votre père, lui, dit être juif, en revanche. D'ailleurs, quelle est la vérité ? Pour autant qu'il est nécessaire de se justifier dans un sens ou dans un autre, sauf si l'époque nous y contraint.
Non, moi je me sens ni contrainte ni je ne suis pas juive, mais si on me considère comme juive, ça me va très bien. Et puis j'ai fini d'ailleurs, à force d'entendre mon père dire qu'on descendait d'une famille de pêcheurs juifs lituaniens, j'ai fini par avoir l'impression que j'étais juive aussi. Et donc pour moi c'est pas enfin je l'assume parfaitement. Et je me dis même que ça me donne même plus de légitimité pour pouvoir critiquer les dirigeants israéliens pour la politique qu'ils mènent dans les territoires palestiniens.
Mais de fait, il y a eu une confusion, par exemple, c'est ce que vous racontez dès le début du récit. Après le massacre du 7 octobre dernier en Israël, on vous a envoyé des messages de soutien. Et de fait, c'est vrai que l'écriture de ce livre a été percutée par cette violence. Comment est-ce que, comme individu et comme journaliste, vous vivez cette situation, pour autant d'ailleurs qu'on peut dissocier les deux?
Je la vis comme beaucoup de gens, c'est-à-dire qui ont été effarés, horrifiés par l'attaque terroriste du 7 octobre, perpétrée par le Hamas, qui était une monstruosité absolue, et horrifiés absolument par la réponse israélienne sur Gaza, qui a fait des dégâts considérable, humain et aussi géopolitique. Enfin, ce qui est en train de se passer dans cette région du monde est terrible. Et là, je crois que les dirigeants israéliens en portent une lourde responsabilité. Enfin, notamment Benjamin Netanyahou, qui est engagé dans une lutte en avant suicidaire, meurtrière, à seule fin d'éviter des procès et une commission d'enquête pour son manque de vigilance le 7 octobre, quand il a fait partir tous ceux qui devaient garder Gaza. Il a préféré les envoyer en Cisjordanie pour protéger les colons. Et si vous voulez, cet homme porte une responsabilité considérable, colossale. Et ce que sont en train de traverser les Palestiniens est monstrueux. Alors, Benjamin Netanyahou est responsable, mais le Hamas aussi, bien sûr. Le problème, c'est que les deux ont intérêt à ce que la guerre continue. Parce que le Hamas, s'il y avait un État palestinien, s'il y avait la paix, il ne pourrait pas survivre. Enfin, il n'y aurait plus de Hamas. Donc, si vous voulez, vous avez ces deux extrêmes qui n'ont aucun intérêt à ce que ce conflit s'arrête, à ce que ces tragédies, ces massacres s'arrêtent, et la communauté internationale qui est tétanisée, et d'autant plus tétanisée qu'on est en pleine campagne électorale américaine et que Joe Biden sait qu'il est en train de jouer sa réélection ou pas sur ce dossier, parce que la jeunesse démocrate est vent debout contre Israël, et les plus âgés des démocrates, eux, continuent à soutenir Israël. Donc Joe Biden est pris entre ces deux impératifs-là. Il est vraiment sur une ligne très, très fragile. Et le problème, c'est que s'il n'est pas réélu, Donald Trump, c'est catastrophique. Parce que c'est ça qu'attend aussi Benjamin Netanyahou. C'est ça aussi pour ça qu'il joue la montre. Hein, parce qu'il attend que Donald Trump revienne au pouvoir. C'est son ami.
Alors j'arrête la journaliste, si vous permettez, Alexandra Schwarzbrough. Et je parle à la femme et à l'écrivaine. Parce que paradoxalement, dans cette situation qui pourtant semble être une escalade vers un conflit sans fin, il me semble avoir lu entre les lignes que vous aviez quand même confiance en une paix possible. Est-ce que c'est le cas ?
Ah oui, ah non, mais c'est même pas, je pense qu'il faut même pas se poser la question. Il faut, même si au fond on a du mal à y croire, il faut se forcer. C'est presque un combat de croire en la paix, de croire qu'une paix est possible. C'est un combat. Le jour où on n'y croit plus, c'est fini. On abandonne définitivement les Palestiniens, on abandonne aussi les Israéliens, parce que ça, il faut le dire et le redire, qu'il n'y aura pas d'État israélien en paix. Les Israéliens ne seront jamais tranquilles tant que les Palestiniens n'auront pas une reconnaissance et un État. Donc on n'a plus le droit de ne plus y croire. On n'a pas le droit de ne plus y croire. Encore plus aujourd'hui. C'est aujourd'hui plus que jamais qu'il faut y croire. Alors je sais, ça paraît peut-être utopique, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que sinon, ça veut dire qu'on laisse les extrémistes, on laisse les guerriers se battre, continuer à se battre. Et ça, on ne peut pas. On ne peut pas parce que ce conflit va entraîner la planète entière dans la tragédie. Donc de toute façon, même si ce n'est pas pour les Palestiniens et les Israéliens, il faut le faire pour le reste de la planète. Parce qu'on voit bien que ce conflit cristallise des tas de choses qui concernent l'ensemble de la planète.
Est-ce que c'est difficile de rester neutre quand on couvre un sujet attaché à une région qu'on connaît bien et qu'on aime particulièrement, et justement dans tous ses aspects ?
Neutre, non, parce qu'on n'est pas des machines. On ne peut pas se mettre sur la fonction neutre. On a forcément des émotions. Mais en effet, il faut distinguer. Ça dépend de ce que vous écrivez. Si en tant que journaliste, si vous écrivez un reportage, il vaut mieux essayer de laisser vos émotions. Enfin, ce n'est même pas qu'il vaut mieux. C'est impératif de laisser vos émotions de côté.
Et ça, vous y arrivez ?
Bah, j'ai essayé, en tout cas. Manifestement, je ne sais pas si j'y suis arrivée quand j'étais correspondante, puisqu'on m'a demandé de revenir parce que, justement, trop critique de la politique israélienne.
Oui,
encore une fois,
c'était
je le redis
bien,
toujours.
Bien, hein.
Voilà. Et c'est vrai que moi, entre 2000 et 2003, il me paraissait plus important de raconter les souffrances des Palestiniens que celle des Israéliens. C'est plutôt comme ça que je me situais. Qu'est-ce qui est le plus important ? De raconter ce que subissent les Palestiniens tous les jours ou ce que subissent les Israéliens ? Alors, même si ce que subissaient les Israéliens, qui était horrible, parce que je l'ai vécu moi-même, les attentats kamikazes, les attentats suicides, c'était monstrueux. Et je l'ai raconté, pas à chaque fois, parce que malheureusement, il y en avait beaucoup, mais le plus possible. Mais il me semblait quand même qu'il y avait une situation d'injustice criante entre ces deux peuples qu'il fallait raconter, qu'il fallait essayer de faire comprendre aux lecteurs français.
Après l'écriture de ce livre, est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau sur vous, Alexandra Schwarzbrau ?
De nouveau sur moi, non, mais ça m'a apporté un peu de paix. Parce que un peu de paix et puis un peu de... Oui, finalement, je me dis, bon, si doit m'arriver quelque chose demain, bon, finalement, j'ai écrit ça et ça restera. Et je crois avoir fait deux, trois choses dont je suis contente. Et je crois avoir été un peu utile, un peu, hein, pas énormément, mais un petit peu. Et il y a une cohérence dans tout ce que j'ai fait. Il y a un même plaisir. Et puis, ça reste pour mes enfants qui, finalement, savent peu de choses de moi
et c'est ce que vous dites
était,
en exergue, oui.
Voilà, et qui était plutôt très ému de lire ce texte qui est aussi un hommage à leur père qui est mort et j'avais besoin de lui rendre cet hommage parce que c'est quelqu'un que j'ai pas toujours bien traité et ça c'est un poids que j'ai toujours et ça voilà ça m'a fait du bien de pouvoir lui rendre hommage.
Donc c'est plus facile d'écrire que de parler pour vous ?
Pour moi souvent oui.
Alors on n'a pas parlé en détail de Libération, ce quotidien français emblématique dont vous racontez les différents épisodes, puisque vous y êtes depuis longtemps. On n'a pas parlé non plus de votre vie de femme libre, de votre lien à la maternité, que ce soit avec votre mère ou avec vos enfants. Mais tout cela est très bien raconté dans ce livre. Donc voilà, je renvoie les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent à se replonger dans ces belles pages lumineuses, à la fois fragmentaires, mais encore une fois, qui donnent une unité de la personne que vous êtes. Merci beaucoup, Alexandra Schwarzbrau. Je rappelle le titre de ce livre, Éclat, qui est apparu dans la collection Traits et Portraits aux éditions Mercure de France.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.